Et on va commencer par demander à Dieu de nous conduire et de nous permettre de comprendre en profondeur ce qui va être dit maintenant. Pas ce que je vais dire, mais ce que Dieu va dire au plus profond de vos cœurs. Merci Seigneur pour ce rendez-vous. C'est vrai que c'est nous qui sommes venus dans ce temple, mais c'est toi qui nous accueilles. Et nous voulons vraiment t'honorer, Seigneur. Nous avons entendu à quel point tu es un Dieu merveilleux qui pardonne nos fautes. Et tu es un Dieu qui parle aussi. Et tu es un Dieu qui parle à travers l'Écriture que nous allons lire maintenant. Et nous te demandons vraiment que par ton Saint-Esprit, ce qu'il y a de plus profond dans les paroles que nous allons entendre se grave dans nos cœurs. Tu es le chemin, tu es la vérité, la vie, et c'est des paroles de vie que tu veux nous donner, Seigneur, pour notre vie tout entière. Amen. Voilà, je vais vous lire un texte que j'aime particulièrement et puis que vous connaissez bien. On ne se lasse pas de le lire. C'est dans le premier livre de Samuel, donc au premier chapitre. Voilà. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, des parts du sacrifice, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligée et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Vas en paix. et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. En lisant ce récit, nous comprenons que ce n'était pas la première fois qu'Anne demandait à Dieu de lui permettre d'avoir un enfant. En fait, depuis des années, chaque fois qu'Elkana allait à Silo avec ses deux femmes pour adorer et offrir des sacrifices, Anne adressait la même prière à Dieu, mais elle n'était pas exaucée. Pour mémoire, je rappelle que Silo, c'était la ville où l'arche de l'Alliance avait été déposée pendant un temps, avant d'être prise par les Philistins qui la transportèrent donc à Ashdod. Après, cette arche a été reprise et puis transférée à Jérusalem. En ce qui concerne le chagrin d'Anne, outre le désir de maternité qui est commun à presque toutes les femmes, la stérilité était comprise à l'époque comme une malédiction divine. Et le verset 6 nous le dit indirectement, donc sa rivale, Pénina, ne cessait de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. La question que l'on peut se poser, c'est la suivante. Pourquoi Dieu n'avait-il pas exaucé la prière d'Anne jusque-là? Et pourquoi l'a-t-il exaucé cette fois-ci? Cela revient à se demander pourquoi Dieu tarde-t-il souvent à répondre à nos prières. Bien, je crois que Dieu se sert de ce temps. Ce temps qui nous paraît toujours interminable et parfois injuste. Pour quoi faire? Pour préparer notre cœur à entrer dans le plan qu'il a pour nous. Et je m'explique. En lisant entre les lignes de notre texte, je crois que cette réponse différée de Dieu a permis à Anne d'entrer dans le plan que Dieu avait pour le fils qu'elle souhaitait avoir. Elle souhaitait le garder pour elle. Dieu, lui, voulait qu'elle le lui consacre, car il avait un plan pour cet enfant et pour son peuple. Ce plan, on le découvre en lisant les premiers chapitres du livre de Samuel. Samuel allait être le dernier des juges et en même temps prophète pour cette époque charnière de l'histoire d'Israël, où le peuple demandera d'être gouverné comme les autres peuples par un roi. On voit ça au chapitre 8. Et c'est aussi Samuel qui va oindre Saül, le premier roi d'Israël, et c'est aussi Samuel qui oindra David, le second roi, lorsque Saül sera rejeté par Dieu. Si Anne avait pu avoir un enfant dès le début de son mariage, elle l'aurait certainement gardé pour elle, comme l'ont fait beaucoup d'autres mamans. Elle l'aurait racheté en versant une somme d'argent au sanctuaire. Vous vous souvenez en effet que selon la loi de Moïse, tous les premiers-nés des hommes et des animaux dans le peuple d'Israël appartenaient au Seigneur et lui étaient consacrés. Les animaux étaient offerts en sacrifice, tandis qu'une sorte de rançon était payée pour les premiers-nés en souvenir de la nuit de la sortie d'Égypte, au cours de laquelle tous les premiers-nés égyptiens, hommes et animaux, étaient morts au cours de la 10e plaie, tandis que les premiers-nés d'Israël avaient été protégés par le sang du sacrifice badigeonné sur le linteau et sur les montants des portes de leur demeure. En demandant à Dieu jour après jour, de lui accorder un enfant. Et en ne recevant pas de réponse favorable, Anne a compris, peu à peu, que si Dieu lui donnait cet enfant, ce ne serait pas seulement pour satisfaire son instinct maternel et la délivrer de la honte d'être stérile, mais pour qu'il soit consacré à Dieu. Au fil des années, cette idée a fait son chemin dans son cœur. Et c'est lorsqu'elle est prête à renoncer à garder pour elle cet enfant qu'elle va pouvoir faire à Dieu une prière qui ne tient pas compte de son désir de femme et de future maman, mais du désir de Dieu. Voilà cette prière que nous avons lue tout à l'heure. Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête, c'est-à-dire il sera nazir, c'est-à-dire consacré à Dieu. Vous avez compris que cette abdication devant Dieu, ce renoncement ne s'est pas fait sans souffrance. Elle en a pleuré des larmes pendant des années. Et l'année même de l'exaucement, avant d'avoir abdiqué devant Dieu, le texte nous dit qu'elle était, je cite, « pleine d'amertume et qu'elle pleurait à chaudes larmes » en arrivant au sanctuaire pour prier. Le texte précise qu'elle est restée longtemps dans la prière, parlant à Dieu dans son cœur et en remuant les lèvres. Elle est restée si longtemps que le prêtre qui était là, Élie, a pensé qu'elle avait trop bu. À l'occasion du repas sacrificiel que les pèlerins avaient coutume de faire, en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains sacrifices étaient consommés en partie par ceux qui l'offraient. Lorsqu'il y a lutte dans notre cœur, entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons, le combat peut durer longtemps. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous admettions que nos désirs doivent correspondre aux désirs de Dieu et non l'inverse. Jusqu'à ce que notre volonté corresponde à la volonté de Dieu. Jésus a parfaitement exprimé cette idée lorsqu'il a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On voit ça dans Jean 4, 34. Anne a lutté, elle a combattu. Elle a résisté jusqu'à ce qu'elle ait admis profondément ce qu'elle dira à Dieu dans son vœu. Je résume. Si tu me donnes un fils, je le donnerai au Seigneur. Nous sommes souvent comme Anne. Nous luttons, résistons, combattons. Jusqu'à ce que nous comprenions que ce que Dieu nous donne n'est pas seulement pour nous, mais pour que nous le servions. Sa grâce, son pardon, son amour, sa paix, sa joie, la foi, le temps, la santé, l'argent, les talents, le conjoint, les enfants et beaucoup d'autres choses encore ne sont pas pour notre usage exclusif, mais pour le servir suivant le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Une fois ce principe admis par Anne, la lutte a cessé subitement. Elle a retrouvé la paix, la sérénité du cœur et de l'esprit. Et si vous avez l'occasion de relire ce texte, vous verrez que le contraste est frappant entre les premiers versets où elle est en larmes, en proie à la contrariété et à la douleur morale, et le verset 18 qui nous dit « Elle mangea et son visage ne fut plus le même. » Peut-être luttez-vous secrètement contre Dieu parce que vous pensez que lui obéir vous priverait de ce que vous avez de plus cher. Lorsqu'on lutte contre Dieu pour garder sa liberté d'agir, cela s'apparente plus à l'esclavage qu'à la véritable liberté. Car entrer dans le plan de Dieu, c'est là que se trouve la liberté. Peut-être Dieu retient-il l'exaucement de certaines de vos prières, même très pieuses, parce que vous n'avez pas renoncé à n'en faire qu'à votre tête, ou parce que vos motivations ne sont pas justes aux yeux de Dieu. On peut lire dans Jacques, chapitre 4, verset 3, « Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Ce que vous demandez, vous l'utilisez pour vos propres plaisirs. » Pour illustrer ce propos, je vais vous raconter comment j'ai lutté contre le Seigneur. Vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à comprendre que le Seigneur m'appelait à le servir en tant que pasteur. Je fréquentais l'église assidûment. J'étais engagé dans la paroisse, mais je rejetais l'idée d'être pasteur. Car ne riez pas, j'avais peur que le Seigneur m'envoie comme missionnaire en Afrique. C'était un super prétexte. Je voulais bien servir Dieu, mais à ma façon et comme je l'entendais. Assez régulièrement, le Seigneur me remettait à l'esprit cet appel, mais je faisais tout pour l'oublier et ne pas en tenir compte. Les années ont passé et l'adulte que je suis devenu a systématiquement organisé sa vie pour que ce soit impossible que je devienne pasteur. C'est du moins ce que je voulais. Au début des années 80, lorsque j'ai découvert le mouvement charismatique, j'ai demandé à Dieu d'être baptisé dans l'Esprit. Superficiellement, j'étais sincère et j'avais vraiment envie de servir Dieu avec la puissance que je voyais se manifester chez ceux qui avaient reçu ce baptême. J'ai eu beau prier, mais vraiment, et Dieu ne m'exaucait pas. Et je me demandais pourquoi Dieu ne voulait pas m'accorder une demande aussi spirituelle. Et un jour, j'ai pris la décision de faire sincèrement le point avec Dieu, sincèrement. Car même si je ne voulais pas l'admettre, j'avais quand même conscience que je luttais contre Dieu et que depuis, excusez du peu, 30 ans, j'avais rejeté son appel. Et je peux vous dire, j'en étais arrivé à un point où j'en avais marre de cette lutte. Je suis donc allé à une convention chrétienne pour que Dieu me parle. Si vraiment c'est toi qui m'appelles, Seigneur, dis-le-moi, montre-le-moi clairement. Et les jours de la convention passaient, et je n'avais toujours pas de réponse. Et chaque jour, je harcelais les seigneurs, mais réponds-moi, parle-moi, Seigneur. Et quand arriva le dernier jour, lorsque le Seigneur comprit que mon cœur était enfin prêt à obéir, eh bien, comme par hasard, il a exaucé ma prière. Et j'ai reçu ce baptême dans l'esprit que je lui demandais depuis 3 ans. C'était le 11 juillet 1986. 2 mois après, je me suis inscrit à la faculté de théologie de Montpellier. À reculons, oh non, ivre de bonheur d'entrer enfin dans les plans du Seigneur. C'est au moment où j'étais prêt à entrer dans le plan de Dieu que Dieu a exaucé ma prière. Depuis des années, vous demandez quelque chose à Dieu et il ne vous exauce pas. Demandez-vous sincèrement si vous n'êtes pas en train de lutter contre Dieu. Si vous ne pouvez pas clairement répondre « Non, Seigneur, je ne lutte pas contre toi », c'est qu'il y a une lutte intérieure qui se cache derrière plein de stratagèmes divers et variés dont notre psychisme a le secret. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il ne tient qu'à vous d'abréger cette lutte épuisante et le mal-être qu'elle engendre. Faites comme Anne, renoncez à faire selon votre volonté et cherchez la volonté de Dieu. Pour terminer, je voudrais ajouter un dernier point qui nous montre que le renoncement que Dieu a demandé à Anne ne procède pas du côté dur et intransigeant d'un Dieu qui aurait voulu la faire plier pour avoir le dernier mot. Dans les années qui ont suivi, Dieu a donné à Anne 3 fils et 2 filles. Qu'elle a pu pouponner et dorloter à loisir. Dieu n'a pas demandé seulement un sacrifice à Anne. Il l'a aussi comblée dans son désir le plus profond de maman. Voilà le Dieu que nous adorons. Il veut le meilleur pour nous et sa tendresse. Elle est infinie. Tu connais tous les cœurs, Seigneur, qui sont là, présents dans ce lieu de culte. S'il y a quelqu'un qui lutte secrètement contre toi, alors fais-lui comprendre, Seigneur. Fais-lui comprendre qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de faire ta volonté et d'entrer dans le service que tu nous demandes. Amen.